Bonjour Nicolas Baïs.
Bonjour.
Hier, François Hollande et Angela Merkel évoquaient la nécessité d'une politique migratoire commune, avec des règles communes en Europe. Est-ce que vous croyez à ce dispositif ?
J'y crois et je trouve que c'est d'ailleurs essentiel de se poser la question aujourd'hui. La question migratoire est enfin perçue comme un enjeu commun qui concerne de fait tous les États européens qui ne peuvent plus aujourd'hui, à mon avis, continuer à se rejeter les fautes. Et il est plus qu'urgent de travailler ensemble quand on voit ce qui se passe aux frontières de l'Europe.
Vous pensez qu'on peut demander à un dirigeant très à droite comme Viktor Orban en Hongrie, par exemple, d'accepter une politique migratoire commune alors qu'il est en train de construire un mur à sa frontière pour empêcher les demandeurs d'asile d'entrer sur son territoire ?
Je pense que, à travers l'histoire, quand l'Europe a fermé ses frontières, c'est toujours elle qui a payé ce type de choix. Aujourd'hui, on se retrouve face à une responsabilité humaine et politique qui est historique, et je pense que tous les dirigeants européens doivent l'entendre.
Même ceux qui sont populistes, même ceux qui sont très à droite, même ceux qui refusent d'accueillir des réfugiés sur leur sol.
Vous savez, la fermeture complète des frontières est impossible et les migrants arriveront quand même dans ces pays. Donc il est plus qu'urgent d'avoir une politique commune et d'harmoniser notre politique face à cette vague migratoire.
Est-ce que la France accueille assez de demandeurs d'asile selon vous ?
Aujourd'hui, c'est une question complexe, effectivement, vous avez raison de la poser, puisque nous sommes en période de crise économique. Et on sait bien qu'en période de crise économique, l'opinion publique est plus réfractaire à cette question des migrants et de solidarité internationale, mais la France doit prendre toute sa part dans cet accueil des migrants. Et aujourd'hui, je pense, à titre personnel, que l'on pourrait faire un peu plus.
On compte un demandeur d'asile pour 1000 habitants en France, contre 9 par habitant en Suède, par exemple. Vous pensez que François Hollande a les moyens de porter ce chiffre à la hausse, qu'il aura la volonté politique de le faire ?
Alors, il doit le faire, je pense, avec un travail pédagogique auprès de la population. Et il faut bien faire comprendre aux Français que dans ces vagues de migrants, il y a énormément de personnes qui peuvent bénéficier du droit d'asile et qui sont éligibles au droit d'asile, qui fuient des combats, qui fuient des zones de guerre, qui fuient des dictatures. Et ces personnes-là doivent être traitées dans le respect de la tradition française du droit d'asile. Par contre, nous devons aussi envoyer des messages à ce que j'appellerais l'immigration économique clandestine et être à la fois intraitable avec les passeurs et malheureusement dur avec ces migrants clandestins avec des reconduites à la frontière.
Vous savez que le taux d'acceptation des demandes d'asile en France aujourd'hui, c'est 21% en première instance. Ça veut dire qu'il n'y a que 21% des migrants qui sont acceptés, dont on accepte l'installation en France. C'est l'un des taux les plus bas de l'Union européenne. Comment ça s'explique selon vous ?
Il y a des critères qui sont...
Est-ce qu'ils sont trop durs ces critères en France ?
Ils sont fixés par des instances indépendantes, ces critères. Aujourd'hui, face...
Ils sont fixés par la loi, non ?
Ils sont fixés à la fois par la loi, mais contrôlés par des instances indépendantes.
Comme la Commission nationale du droit d'asile.
Voilà, qui est composée à la fois de politiques, mais aussi de magistrats et de personnes de la société civile.
Mais on peut toujours réformer la Cour du droit d'asile.
On a déjà voté en juin une loi pour réformer le droit d'asile, et déjà sur un premier point pour accélérer les procédures, puisque vous citez effectivement ce chiffre de 20% de dossiers acceptés, mais il faut aussi voir le nombre, la durée de traitement de ces dossiers, et on ne peut plus aujourd'hui laisser des personnes qui sont dans la difficulté, qui sont dans l'attente pendant 24 à 36 mois, dans l'attente d'une réponse sur leur demande de droit d'asile. Aujourd'hui, ce délai va être raccourci par la loi et il faudra effectivement se poser les questions des conditions pour obtenir le droit d'asile. Mais vous savez que la liste des pays, quand vous êtes un demandeur de droit d'asile, votre pays doit figurer dans une liste et cette liste ne cesse aujourd'hui malheureusement de s'agrandir.
Plus globalement, Nicolas Baïs, François Hollande prononce le discours inaugural de la semaine des ambassadeurs aujourd'hui. Quel est selon vous le fil conducteur de la politique étrangère du président depuis son arrivée au pouvoir ?
D'abord, ce discours est un exercice classique. Le président de la République, pour ceux qui ne connaissent pas l'exercice, le président de la République va donner ses consignes globales aux ambassadeurs et fixe la ligne de la politique étrangère pour l'année à venir.
Donc justement, est-ce qu'il y a une doctrine Hollande aujourd'hui en matière de politique étrangère ?
Il y en a une et elle porte ses fruits. Tout d'abord, la ligne économique. Nos ambassadeurs sont devenus, depuis l'arrivée du président de la République et de Laurent Fabius au Quai d'Orsay, de véritables ambassadeurs économiques de la France. Nos diplomates ne se contentent plus de la diplomatie politicienne et aujourd'hui font aussi de la diplomatie économique. Cette année, je pense que le discours aux ambassadeurs aura aussi une forte connotation environnementale. La France accueille la COP21 en décembre à Paris. Et les ambassadeurs sont aussi la voix de la France quand la France est un acteur responsable sur la scène internationale, notamment dans la lutte contre le terrorisme.
Vous étiez favorable, Nicolas Baïs, aux interventions militaires au Mali et en Centrafrique?
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez du suivi politique et sécuritaire de ces interventions aujourd'hui?
Aujourd'hui, les opérations sont toujours en cours, hein, puisque nos militaires et au Mali et en Centrafrique interviennent quotidiennement. Au Mali, on voit que la transition diplomatique a pu se faire.
Il y a encore des affrontements ces derniers jours entre groupes armés dans le nord, par exemple. Hein, les forces de la mission de l'ONU sur place sont attaquées régulièrement. Donc,
alors, elles sont attaquées par des groupes terroristes, mais ça, c'est vrai dans toute la bande sahélienne. Sauf que la problématique avec les Touaregs du nord du Mali a été calmée dernièrement. Au début de l'intervention, souvenez-vous, les Touaregs étaient liés aux groupes terroristes. Et aujourd'hui, la discussion a repris entre le pouvoir de Bamako et les groupes Touaregs. Et nos forces ne sont plus que confrontées qu'aux groupes terroristes dans le nord du Mali. Et on a installé une stabilité politique aujourd'hui dans le Mali. C'est un peu plus complexe en Centrafrique, mais...
En Centrafrique, il y a là encore des affrontements intercommunautaires. Malgré l'intervention française, malgré la présence de l'ONU sur place.
Les tensions intercommunautaires sont effectivement bien présentes en Centrafrique, en baisse régulière depuis l'intervention française. Les négociations sont ouvertes entre les différentes communautés. La France, rappelons-le, dans ces deux pays, est intervenue dans des situations d'extrême urgence.
Selon vous, il fallait le faire.
Mais si je reprends que l'exemple du Mali, les colonnes de Chebab étaient à moins de 48 heures de piste de Bamako. À Bamako, vous aviez 8000 Occidentaux présents sur Bamako. Vous offriez la possibilité d'offrir 8000 otages en puissance à ces colonnes de djihadistes. Ça, c'est le premier point. Puis on sait très bien que quand la capitale d'un pays tombe, il est beaucoup plus complexe d'aider le pays par la suite à résister. On l'a vu en Afghanistan quand les talibans avaient pris Kaboul. Donc il était important à la fois en soutien au gouvernement malien qui avait appelé la France à l'aide, mais aussi pour protéger les ressortissants occidentaux présents à Bamako, d'intervenir très rapidement.
Merci Nicolas Baïs.